Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous avons aujourd'hui, dans la liturgie, une épître et un évangile qui peuvent nous paraître surprenants. Dans l'épître, saint Paul argumente auprès des Galates pour leur dire que c'est la foi qui sauve et non pas la loi des Juifs. Et dans l'évangile, il s'agit sur 10 lépreux de 9 Juifs qui sont guéris mais ne pensent pas à remercier le Seigneur, tandis qu'un Samaritain, le 10e, lui revient sur ses pas pour remercier. L'Église remet sous nos yeux ce qu'on pourrait appeler une controverse, qui fut celle des premiers chrétiens. Devaient-ils ou non abandonner la pratique du judaïsme, je veux dire les rites extérieurs? Est-ce que la loi nouvelle abolissait les pratiques de la loi ancienne? Pourquoi l'Église nous remet-elle cela sous les yeux encore une fois? C'est que ce problème est toujours actuel. Il y a la vie de la foi et la vie des œuvres. Bien sûr, saint Paul ne dit absolument pas que les œuvres soient inutiles. Cela, ce serait l'hérésie protestante. Mais il affirme que les œuvres n'ont de porte de fruits, n'ont de mérite, d'efficacité et d'intérêt que par la foi qui les anime. Il le prouve puisque Abraham n'avait pas encore la loi, il n'avait pas encore la révélation mosaïque. Il avait bien une révélation, bien sûr, sinon il n'aurait pas pu croire au vrai Dieu. Il aurait honoré naturellement, comme l'ont fait certains païens peut-être, mais il y aurait eu beaucoup d'erreurs, puis il n'aurait pas cru à la Trinité, il n'aurait pas honoré le vrai Dieu. Donc Abraham avait une révélation, comme tous les peuples depuis Adam et Ève. Adam et Ève ont transmis la révélation que Dieu leur avait faite, et puis, j'ouvre une parenthèse, certains l'ont déformé au point de trouver cela normal, c'est l'origine de la gnose. D'autres l'ont déformé en matérialisant et voire même en mêlant des légendes lamentables à cette révélation. C'est un très grand nombre de païens, et puis quelques-uns sont restés fidèles, c'est notamment la race d'Abraham. Donc Abraham fut fidèle, il fut récompensé. Dieu lui promit une récompense à sa fidélité, et bien entendu, ce n'était pas à cause de la loi, mais à cause de la foi. D'ailleurs, l'Écriture sainte le dit, le juste vit de la foi, et en donne de nombreux exemples, dont Abraham. Les Juifs, eux, ne furent pas justifiés malgré la loi. Alors certains Juifs, oui, bien sûr, saint Joseph, la Sainte Vierge, et de nombreux autres auparavant, mais un grand nombre de Juifs ne furent pas justifiés parce que la loi ne suffisait pas, il fallait qu'elle fût animée par la foi, et ils n'avaient pas la foi dans la divinité du Messie à venir, ils ne faisaient qu'observer matériellement la loi. Ce problème, vous le voyez, cette difficulté plus exactement, est très actuel. Commençons par un petit récit sur Abraham, si vous le voulez bien. Mes chers enfants, s'il y a des enfants qui m'écoutent, alors ouvrez bien vos oreilles, c'est un récit, cela devrait vous plaire et vous parler. Abraham venait de la Chaldée, qui était un pays fort développé. Ne croyons pas que les gens autrefois avaient moins d'intelligence que nous. Ça, c'est une vue très évolutionniste qui nous a été mise dans la tête, comme si les hommes des cavernes étaient des gens idiots, incapables de construire des maisons, qui vivaient dans les cavernes, comme si on pouvait vivre dans des cavernes, et comme si ils n'avaient pas, comme s'ils n'étaient pas les descendants d'Adam et Ève, qui avaient le don d'intelligence. Alors, les gens d'autrefois étaient tout aussi intelligents que nous. Ils avaient des connaissances que nous n'avions pas, que nous n'avons pas, que Dieu avait révélées à Adam et Ève, par exemple sur les plantes, sur les astres, sur le cycle du soleil, de la terre, etc. Ils avaient certaines connaissances qu'ils n'avaient pas, mais qui n'ont pas d'intérêt, par exemple les ordinateurs, Internet, la voiture, le moteur explosion, etc. Quand je dis qu'elles n'ont pas d'intérêt, c'est qu'elles n'ont pas d'intérêt. Elles n'ont d'intérêt que pour faciliter la vie ici-bas et pour essayer d'échapper à cette vallée de larmes et croire que ici-bas nous pouvons avoir un certain bonheur, alors que le bonheur est au ciel. Ce sont des produits très dangereux parce que justement ils nous font désirer la terre plus que le ciel. Et puis il y avait les connaissances de la foi, je vous l'ai dit, Adam et Ève les avaient, peut-être pas avec la même clarté, leurs descendants, que nous, parce que nous avons eu Jésus-Christ, mais enfin, Jésus dit que Abraham a vu son jour, c'est-à-dire qu'il a vu Jésus-Christ, il a eu la révélation. Alors, ces gens-là étaient fort intelligents, et ils savaient travailler, et ils avaient des villes développées en Chaldée, construites en briques. Ils avaient des ziggourats qui étaient des temples très très élevés. Ça vous paraît rien, vous, parce que maintenant nous sommes habitués à faire des immeubles en béton qui font des centaines de mètres de haut. Mais faire une ziggourate de 40 mètres de haut sans qu'elle s'écroule, c'est vraiment un prodige. Il y avait certainement dans la manière de vivre moins de différence entre Abraham et le Moyen-Âge qu'entre le Moyen-Âge et nous. Et on pourrait peut-être même dire entre Abraham et Louis XIV ou Louis XV et Louis XV et nous. Cette civilisation était fort développée, le blé rendait 200 pour 1, ce qui est énorme. Il y avait des canaux d'irrigation, cette région est désormais un marécage parce qu'elle a été complètement abandonnée. Mais à l'époque, il y avait des canaux d'irrigation qui rendaient cette région très fertile. Ils avaient l'écriture cunéiforme, qui est un petit prodige, parce que sur une tablette, vous mettez l'équivalent de tout un livre, et celui qui a inventé l'écriture cunéiforme a certainement eu beaucoup d'intelligence et savait ce qu'il faisait. Alors, Dieu n'est absolument pas impressionné par cela, et cette civilisation, parce qu'on peut parler d'une civilisation, qui s'enorgueillit de son succès matériel, tombe dans l'idolâtrie. Le père d'Abraham tombe dans l'idolâtrie, on pense même qu'il fut le premier à faire des idoles. Abraham se rend bien compte que les idoles de son père ne sont rien du tout, et il les démolit avec une hache. Il laisse cependant la hache dans les mains de la plus grande idole. Le père d'Abraham, taré, se doute bien que c'est son fils qui a fait le coup. Il l'interroge et Abraham fait exprès de faire le naïf pour faire réfléchir son père. Et il dit, écoutez, j'ai apporté un chevreau à vos dieux. Ils se sont tous disputés, sans laisser le dieu principal manger le premier. Alors le dieu principal s'est fâché et il les a tués. Alors le père dit, c'est pas possible, des statues de pierre ne peuvent pas s'animer. Alors Abraham lui dit, si elles ne peuvent pas s'animer, alors pourquoi vous les honorez? Pourquoi vous les considérez comme des dieux? Finalement, l'affaire s'envenime et Taré va être converti par son fils et toute la famille d'Abraham, avec le père, pas d'enfants puisqu'il n'en avait pas encore, mais des neveux, Lot, et puis probablement des beaux-frères, des belles-sœurs, quittent Ur en Chaldée, cette belle, splendide ville qui était la capitale de la Chaldée, quittent cette ville pour fuir la persécution. Ils se rendent dans la terre promise, Dieu leur inspire de partir dans la terre promise. Taré va s'arrêter en cours de route, et puis Abraham va continuer, lui, et va se rendre jusque dans la terre promise. Et là, lui, ce personnage très riche, très intelligent, très influent, va vivre comme un nomade, et Dieu va lui dire une seule chose, marche en ma présence. C'est-à-dire, fais bien attention que je vois tout et fais en sorte que toutes tes actions soient dignes de moi. Abraham va passer toute sa vie comme un pasteur nomade. Il ne possédera qu'un seul bien immobilier, c'est-à-dire qu'une seule terre, c'est le tombeau de sa femme. À part cela, rien que des tentes, des moutons, des chameaux, et puis beaucoup de serviteurs autour de lui. Il est évident que Abraham a cru. Tout d'abord, il a bien jugé le monde moderne de l'époque, c'est-à-dire ça ne vaut rien. Là où son père s'arrête en cours de route dans une ville, parce que son père estimait qu'il y avait suffisamment de distance maintenant mise avec la Chaldée et qu'il ne craignait plus rien, Abraham se rend bien compte que si Dieu les a fait sortir, ce n'est pas pour qu'ils s'enracinent de nouveau dans une ville, et donc Abraham continue. Taré est l'image de tous ceux qui prennent de fortes résolutions pour une vie plus parfaite, voire même pour la vie religieuse, et puis qui s'arrêtent en cours de route, et qui ne vont pas jusque là où Dieu voulait les mener. Abraham, lui, est l'image et le premier, le modèle de tous ceux qui vont jusqu'au bout dans le détachement. Abraham nous montre l'exemple d'une vie complètement détachée du monde. Vous allez me dire, mais notre Seigneur nous demande d'exercer les œuvres de miséricorde, et je vous ai fait des sermons sur ce sujet, alors comment peut-on exercer les œuvres de miséricorde tout en étant coupé du monde? Eh bien, c'est qu'il s'agit d'un état d'esprit. À l'époque d'Abraham, où l'idolâtrie et les persécutions étaient violentes, parce que c'était des hommes qui n'était pas encore adouci par l'Esprit Saint et par la charité, alors il était nécessaire de donner des réponses radicales aux problèmes qui se posaient. Et il y a toujours eu un problème d'amour du monde, de concupiscence, de désir du monde, de désir des richesses principalement, puis les richesses après cela entraînent tout le reste. Et Abraham, pour résoudre ce problème, et le résout radicalement et se coupe totalement du monde, comme les Touaregs, comme les Tziganes aujourd'hui, où nous voyons bien que le fait d'être nomade les protège encore mieux que toutes les murailles des châteaux qu'on pourrait imaginer. Nous avons eu Jésus-Christ, et depuis Jésus-Christ, la réponse que nous donnons est une réponse dans l'esprit, plus que dans la lettre. L'esprit vivifie, la lettre tue. C'est-à-dire que nous devons être à l'écart du monde tout en étant proche du monde. Proche du monde comme notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que je vous dise un mot sur la promesse qui a été faite à la descendance d'Abraham. Tous les pères de l'Église nous expliquent que cette promesse qui a été faite à Abraham à propos de sa descendance c'est à propos du Christ. Le Christ est la véritable descendance d'Abraham. Et le Saint Paul explique que le Christ nous a sauvés par la croix. Autrement dit, la grande promesse faite à Abraham, c'est la promesse de la croix. C'est pourquoi, d'ailleurs, un peu plus tard, Dieu lui demandera le sacrifice de son fils Isaac sur un bûcher, et là encore, tous les pères de l'Église nous expliquent qu'Isaac représente Jésus-Christ, le fils de la promesse, et que le bûcher représente la croix. Alors, nous qui sommes fils d'Abraham, parce que nous sommes frères de Jésus-Christ, qui sommes fils d'Abraham en Jésus-Christ, non pas par la chair et par le sang, mais parce que nous sommes nés de Dieu, dernier évangile de la messe. Les hommes, non pas ceux qui sont nés de la chair et du sang, mais qui sont nés de Dieu. Eh bien, nous pouvons dire que nous sommes de la race d'Abraham, non pas comme les Juifs qui, au temps de notre Seigneur, se recommandaient d'être de la race d'Abraham par le sang, nous le sommes par la foi. C'est tout ce que saint Paul cherche à nous faire comprendre aujourd'hui, est-ce que l'Église cherche à nous faire comprendre, parce que cette leçon, comme je vous l'ai dit, est encore et toujours d'actualité, peut-être même plus encore aujourd'hui qu'à l'époque d'Abraham. Alors, Abraham fuit et il se coupe du monde, et c'est tout un état d'esprit, je vous le disais, nous sommes coupés du monde parce que nous sommes proches de Dieu, et nous sommes comme notre Seigneur Jésus-Christ, très proches du monde, comme il le fut par l'incarnation. De nature en Jésus-Christ, c'est la présence de Dieu, la personne, deuxième personne du Verbe, inspirait, éclairait toute sa nature humaine, qui par conséquent était uniquement préoccupé des choses de Dieu, et en même temps, par l'incarnation, il était très proche des hommes, et on le voit d'ailleurs beaucoup faire de miracles, soigner de malades et guérir des possédés du démon, etc. Les applications pratiques, je ne peux pas entrer dans tous les détails, mais vous vous rendez bien compte avec tous les sermons que je vous ai faits que j'ai insisté sur le fait sur les œuvres de miséricorde, sur le fait que nous devons, comme notre Seigneur Jésus-Christ, faire du bien là où nous sommes. Aujourd'hui, dans ce sermon, à la suite de l'Église, je vous rappelle que ces œuvres de miséricorde ne pourront être fructueuses pour vous et pour les autres que si vous avez, à l'exemple d'Abraham, quitté votre ville, votre maison, le pays des vôtres, si vous avez quitté le monde moderne, en esprit, bien sûr, je vous le rappelle, mais en esprit, c'est plus fort qu'en réalité, hein. Il est bien plus difficile d'être pauvre en esprit que d'être pauvre en réalité. Il est bien plus difficile de quitter le monde en esprit que de le quitter en réalité. Et donc, vous pourrez faire du bien que si vous avez quitté le monde, c'est-à-dire que vous ne l'aimez pas, que vous le combattez même, que vous le combattez en vous-même, que vous combattez la triple concupiscence des yeux, de la chair et de l'orgueil de la vie, cette triple concupiscence qui est un penchant vers le monde. Pour terminer ce sermon, un petit mot sur la situation dans laquelle nous sommes. Tout d'abord, cette crise qui frappe l'Église est très certainement une crise de la lettre contre l'esprit. On nous parle continuellement d'obéissance, c'est-à-dire d'obéissance à la lettre de la loi, de loi, obéissance, c'est la loi, alors que, je vous l'ai expliqué, nous sommes soumis au Saint-Esprit, nous sommes mus par le Saint-Esprit. Mus, c'est beaucoup plus que d'obéir, c'est vraiment être dans la main du Saint-Esprit. Alors, cette crise de l'obéissance, je ne dis pas qu'il y a une crise parce qu'on ne sait pas obéir, je dis qu'il y a une crise parce que nous, on nous oblige à obéir au lieu d'être mus par le Saint-Esprit. Cette crise de l'obéissance est une crise de la lettre de la loi contre l'esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit d'Abraham. Cela, nous l'avons vu juste après le Concile Vatican II, qui est une révolte contre Dieu, et on a voulu nous soumettre aux pratiques en perdant l'esprit. Heureusement, Mgr Lefebvre nous y a fait échapper. Dieu sait si Mgr Lefebvre nous a parlé de la vie intérieure, de la vie de l'âme, de la vie de l'esprit. Vraiment, Mgr Lefebvre nous a fait vivre dans une réelle intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ. La crise de la fraternité, c'est exactement la même chose, un amour du monde, ce monde plaît, on veut rester dedans. Vous avez Monsieur Abbé Schmidberger qui se réjouissait d'avoir reçu la juridiction du pape pour les confessions, parce que cela nous ouvrirait un grand champ d'apostolat. C'est-à-dire que il y a ce désir du monde et ce refus d'être coupé. Encore une fois, je vous l'ai dit, nous sommes coupés en esprit, nous sommes proches par le corps, mais c'est l'inverse. Ils sont unis au monde en esprit, même et par le corps, je ne sais pas ce qu'ils sont. Dans la fidélité catholique, il nous est demandé de quitter notre pays à cause des persécutions, comme Abraham. Ne vous en surprenez pas, c'est un bienfait de Dieu, il nous oblige à quitter ce monde pervers, quitte les tiens, quitte ta maison, et va dans le pays que je te montrerai, marche en ma présence. C'est Dieu qui donne cet ordre à Abraham, il nous le donne à nous aussi, nous l'avions peut-être un peu oublié, nous avions peut-être, un peu comme la fraternité Sabidis, aimer peut-être tout en étant chrétien, mais enfin, nous avons donné une trop grande place à ce monde moderne, pas assez de place à la vie intérieure, pas assez de place à l'union à Dieu, à la solitude avec le bon Dieu. Alors le bon Dieu rétablit cela et il nous demande aujourd'hui d'être, on pourrait dire d'une certaine manière, à contre-courant. Bien sûr, il y aura des persécutions, comme pour Abraham, je vous en parlerai une autre fois, sinon le sermon serait trop long. Demandez à la Sainte Vierge, qui est vraiment un modèle de vie intérieure d'une part, d'être coupé du monde d'autre part, et en même temps d'être proche du monde. Ma phrase n'est pas française, vous me le pardonnerez. La Sainte Vierge coupée du monde, on le voit particulièrement au pied de la croix. S'il y a bien un endroit où le monde n'est pas, c'est au pied de la croix. Et la Sainte Vierge, elle, y est. Elle est avec son Fils, Jésus, et en même temps, elle est, par le corps, très proche de ce monde, elle prie pour la conversion des pécheurs, elle s'unit d'intention aux intentions de notre Seigneur Jésus-Christ, qui veut le salut du monde. Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, demandons cela à la Très Sainte Vierge, et à ce moment-là, l'épreuve que nous connaissons, qui nous a obligés à quitter notre maison, nos habitudes, pour marcher en la présence de Dieu, cette épreuve, loin de nous nuire, nous sera grandement bénéfique, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.